Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main. Me serrer la main. Me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Anne-Charlotte a toujours eu un fort désir de devenir maman, et logiquement pour elle, après son mariage, elle allait enchaîner avec une grossesse. Pourtant, elle avait aussi le sentiment que ce serait compliqué pour elle d'avoir un enfant, et elle n'avait pas tort. Les premiers mois, la magie n'opère pas, et Anne-Charlotte le vit déjà très mal. Elle ne parle pas de son désir d'enfant à son entourage et ne partage pas sa déception lorsque le bâtonnet continue d'afficher négatif. Et pendant ce temps-là, ses amis annoncent tour à tour leur grossesse. Au bout de 8 mois, son rêve devient réalité, elle est enfin enceinte. Malheureusement, quelques semaines plus tard, c'est la fausse couche et l'arrivée de la dépression pour Anne-Charlotte. Elle vit très mal cette épreuve et les naissances des bébés de ses proches en parallèle. Alors elle s'isole de plus en plus, sans raconter ce qu'elle traverse et se sentant incomprise. Car comment réussir à garder la face quand toutes ses amies proches annoncent leur grossesse, qu'il faut aller rencontrer leur bébé, les féliciter alors que l'on vient de faire une fausse couche? Comment passer à autre chose quand on n'arrive plus à se lever pour aller travailler le matin, qu'on n'a plus le goût à rien, ni l'envie de voir personne? Pendant des mois, Anne-Charlotte reste sous sa couette attendant que sa peine passe. Puis c'est le moment d'aller voir une psy, de se relever, de reprendre confiance en la vie et de découvrir enfin les fameuses 2 barres roses qu'elle attendait tant. Une merveilleuse rencontre avec son fils chéri, un changement de vie, et elle retombe enceinte 10 mois plus tard. Mais la fausse couche n'a pas dit son dernier mot, et Anne-Charlotte va devoir gérer cette deuxième épreuve, cette fois-ci en étant maman. Bonne écoute.
Bonjour Anne-Charlotte.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Ben merci de m'accueillir ici, je suis ravie d'être là.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman d'un petit garçon.
Oui.
Quel âge il a ?
2 ans dans 3 semaines.
Ok. Alors on va revenir au tout début, toi-même avant que tu deviennes maman.
Ouais.
Quel regard tu avais sur la maternité ? Est-ce que tu as toujours voulu être maman ou c'est quelque chose qui est arrivé
J'ai toujours voulu être maman, ça c'est sûr. Je me suis toujours vue plus tard avec des enfants, je me suis toujours vue mariée avec des enfants. J'y pensais pas particulièrement, mais en fait c'était une évidence que plus tard je serais maman, quoi.
Et alors, tu t'es mise en couple ?
Ouais, je me suis mise en couple avec mon mari quand j'avais 22 ans, jeune en fait, finalement. On pensait pas du tout aux enfants, pour le coup, au début de notre relation, parce que moi j'étais très jeune, et même lui je crois qu'il avait 25 ans, 26 ans, donc on était pas là-dedans. Mais on va dire, allez, deux ans après notre relation, moi ça a commencé à un petit peu me travailler, entre guillemets. Déjà parce que lui il est un peu plus âgé et il avait pas mal d'amis qui avaient des enfants.
D'accord.
Qui commençaient à avoir des enfants. Et donc dès que je voyais du coup ces petits bébés, je commençais à me dire ah ben ça sera cool, quand nous aussi ça sera notre tour, on aura nos enfants. J'en parlais un petit peu avec lui, par contre lui je voyais qu'il était pas chaud du tout. Pas du tout. Mais moi ça commençait à me travailler un peu et je commençais à avoir ce désir qui augmentait de plus en plus. Donc assez tôt finalement, donc après on a construit notre relation et on a prévu de se marier aux alentours de mes 26 ans.
Okay.
Donc dans ma tête, moi c'était on se marie, on fait un enfant, c'est sûr. Je commençais à avoir vraiment super envie, ça faisait un moment que j'y pensais. Après, j'en parlais pas autour de moi, parce qu'au fond de moi, j'avais un peu une angoisse de pas y arriver.
Ah oui.
C'est-à-dire que assez tôt, c'est un truc qui m'a fait peur. J'en parlais pas du tout, je mentais même, je disais non, on verra plus tard, je suis pas prête particulièrement, alors que j'avais très très envie.
Elle mais... venait d'où cette peur, tu sais
ou... Ouais, je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui est assez terre-à-terre, taureau, réaliste. Et donc en fait, la maternité, il y a un truc qui est magique, tu vois, le fait de tomber enceinte, de créer un être, c'est... J'arrive pas, enfin j'ai du mal à... C'est difficile à intellectualiser en fait. Donc du coup, ce côté magique, j'arrivais pas à me dire c'est possible de créer un être vivant, et donc du coup j'avais peur que ça marche pas, tellement c'était difficilement palpable, quoi.
D'accord.
Donc j'avais très peur de ça. Et du coup j'en parlais pas du tout, et parce que j'avais peur aussi qu'on me pose des questions, de pas y arriver et qu'on me pose des questions, etc. Okay. Je sais pas si tu
as
bien saisi ce que j'essayais d'exprimer.
Et t'avais des cas autour de toi pour qui ça n'avait pas fonctionné, ou c'était vraiment...
Peu finalement. Et même d'ailleurs, je m'étonnais à chaque fois de voir un couple marié qui t'annonçait 3 mois après qu'ils allaient avoir un enfant, quoi. Mmh. Je me disais, en fait, c'est pas si... Enfin, c'est possible, mais bon, j'arrivais pas à me dire que ça allait... que c'était facile, quoi.
D'accord.
J'avais pas tort. Du coup, on s'est mariés, et là, on a essayé de faire un enfant. Et en fait, moi, dès les premiers cycles où ça n'a pas marché, j'ai vraiment très mal vécu, je l'ai très mal vécu, parce que c'est comme si déjà mes craintes se réalisaient pas au bout de... C'est idiot de dire ça au bout d'un cycle, tu vois, mais j'avais ces angoisses qui revenaient, de me dire que je vais pas y arriver, ça va pas marcher. Et d'un autre côté, j'avais les 2 ans où je commençais à avoir envie d'un enfant, où, tu vois, j'avais hâte, finalement, d'être enceinte. Je me disais, en fait, finalement, t'as attendu 2 ans, mais tu vas peut-être attendre plus. Enfin, donc, j'avais tout ça qui se mélangeait, et donc, très vite, j'ai été déçue.
Ouais.
Très vite, j'ai été déçue, et je me suis vite mise dans un truc où je voulais absolument faire un enfant.
Ça devenait obsessionnel.
Ouais, ça l'était, honnêtement, ça l'était. Donc, les mois sont passés, plusieurs mois.
Donc là, t'avais fait plusieurs tests de grossesse.
Ouais, je faisais mes tests très tôt, j'étais vraiment à fond, quoi. Je voulais vraiment savoir si ça avait marché. Je suis même fait des tests d'ovulation, enfin, je voulais vraiment que ça marche.
Mm.
Et du coup, j'étais vraiment dans ce truc où tous les 15 jours, j'attendais l'ovulation, après j'attendais mes règles qui arrivaient, donc... Enfin, ma vie était un peu... se tourner un peu autour de ça, quoi.
Ouais.
Donc c'était... Bon, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui le vivaient comme ça, mais moi, vraiment fort, quoi.
Et là, t'en parlais toujours pas autour de toi ?
Non, pas du tout. Pas du tout, sauf à certaines personnes, mais via les réseaux sociaux.
D'accord.
C'est-à-dire que comme je voulais pas en parler autour de moi, mais que j'avais besoin d'en parler, je m'étais créé un compte Instagram dédié à ça, où je pouvais parler de mes essais, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai rencontré une de mes meilleures amies comme ça.
Ah oui ?
Ouais, on se parle encore, on est super proches. Et on s'est rencontrés comme ça sur les réseaux sociaux.
Génial.
Donc du coup, j'ai vécu les choses comme ça, et les mois se sont écoulés. J'ai commencé un peu à me renfermer sur moi-même, je pense, à cette période-là. C'est-à-dire que comme j'étais dans mon petit monde, ou dans mon malheur, entre guillemets, où ça fonctionnait pas, j'arrivais pas trop à aller vers les gens, j'arrivais plus trop à aller voir les gens. J'évitais tous les dîners, enfin, dès qu'il y avait même les verres avec mes amis, j'avais pas envie d'y aller. Je pense que je cachais tellement une partie de moi, comme j'en parlais pas, que j'avais du mal à aller voir les gens et faire comme si de rien n'était, alors que j'avais un peu ce secret caché, tu vois. Donc je me suis vraiment coupée du monde. J'ai juste gardé contact quasiment qu'avec ma meilleure amie, plus les personnes sur les réseaux sociaux.
Ah oui, d'accord.
Ouais, un peu bizarre, mais je pense que je me suis créé un truc. Et en fait, et vraiment, je voulais pas du tout en parler. Je sais pas, j'avais un peu honte, en fait, je pense. Je pense que le fait d'avoir du mal à avoir un enfant, il y a une part de moi qui... Je sais pas, que j'étais pas fière, mais... J'avais pas envie de dévoiler ce truc super intime, et que les gens sachent, en fait, ou m'en parlent, ou me posent des questions sur ce sujet-là. Je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc je cachais, je disais rien et je m'éloignais. Donc je pense que j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça, mais je pouvais pas faire autrement, en fait.
Et avec ton mari, vous en discutiez ?
Le problème, c'est... Non, franchement, pas beaucoup. Et dès que j'en parlais, lui, il était pas trop ouvert à la conversation, parce que déjà, ça faisait là je t'en parle comme on a l'impression que ça fait des années que j'essayais, mais là ça faisait peut-être 8 mois.
Ouais.
Donc c'est pas non plus c'est pas très long.
Mm.
Mais moi je le vivais mal, lui il était encore dans le bah c'est pas grave, ça va venir et du coup non, on n'avait pas du tout de dialogue là-dessus, impossible. On n'avait pas non plus avec ma mère ni avec ma famille sur ce sujet-là, donc ouais, je m'étais un peu renfermée dans mon truc.
Est-ce que autour de toi, tu avais des amis qui tombaient enceintes
Ouais, j'avais beaucoup d'annonces de grossesse et je commençais déjà à les vivre honnêtement très mal.
Mmh.
Enfin, ça fait bizarre de dire très mal, mais ouais, j'avais du mal à le supporter parce que ça me renvoyait. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand t'essaies d'avoir un enfant et que tu vois des femmes enceintes, que t'as du mal à les voir, c'est parce que t'es jalouse, mais vraiment, c'est pas ça. Et c'est important de le souligner, c'est juste que ça te renvoie à ce que toi, tu n'arrives pas à voir. Et donc, quand tu vois une femme enceinte, tu te dis, mince, pourquoi moi, j'y arrive pas? Tu te dis pas, oh, j'ai envie d'être... Enfin, si, t'as envie d'être à sa place, mais c'est pas de la jalousie méchante, entre guillemets, où tu te dis, je veux pas la voir... C'est juste, ça te renvoie à tes soucis et du coup tu te sens pas bien en fait. Donc ouais, j'avais beaucoup de mal à voir des femmes enceintes, j'avais du mal à supporter les annonces de grossesse. Et encore, on va dire que ça faisait que 8 mois, donc ça allait.
Ouais.
Ça a été plus dur après, mais donc j'arrivais encore à aller les voir, mais j'angoissais avant d'y aller, quoi, on va dire. Donc j'angoissais un peu avant d'y aller, d'entendre une annonce, ça me faisait, sur le coup, ça me faisait un peu mal, mais bon, on va dire que c'était encore supportable, même si ça commençait à être difficile. Donc là, il s'est passé, on va dire, 8 mois. J'essaie de me rappeler. Ouais, donc j'ai commencé à essayer l'été 2017. Et après, il s'est passé jusqu'à mai, donc il s'est rien passé.
Mmh.
Après, est arrivé le mois de mai 2018, où, après mon ovulation... J'ai commencé à ressentir des petites douleurs au ventre. Donc je me suis dit, peut-être que c'est ça.
Mmh.
Enfin bon, je me suis dit, 8 mois avant, peut-être que c'est ça, au moindre truc, mais moindre symptôme. Mais là, c'était différent parce que c'était assez fort. Donc j'ai espéré que ça soit ça. Je commençais à me dire, allez, ça y est, peut-être que c'est la bonne. Voilà. Et du coup, finalement, je fais un test de grossesse très très tôt. Peut-être, je crois, 12 jours après l'ovulation.
Mmh.
Et là, je vois une petite barre bleue qui se dessine sur le test. Je me rappelle, je tremblais dans les toilettes. J'avais les mains moites et je me suis dit, ça y est, quoi, je suis enceinte.
Enfin,
c'est trop bien. Mmh. Bon, la ligne était très, très claire. Donc, assez vite, je me suis dit, attends, ça se trouve, c'est un faux positif. Tu te fais un film. Ouais. Va vite faire une prise de sang. Donc j'ai fait ma prise de sang, les résultats sont tombés assez tôt. Et quand les résultats sont tombés, j'ai vu un taux super faible. Enfin 30, 38, je sais pas si tu vois quoi ça correspond, mais bon c'était... Non, même pas 30. Je crois 12 UI. Donc vraiment c'est super faible. Donc je me suis dit mince... Il y a peut-être un souci. Et tout de suite dans ma tête, je me suis... Ça y est, l'angoisse ouais, est arrivée. Quoi.
C'était jamais loin, tes angoisses.
Voilà, l'angoisse est arrivée. Je me suis dit, il y a un souci. Je n'arrivais pas du tout à me détendre. Du coup, les 10 jours qu'on suivit, j'ai fait pendant 10 jours une prise de sang pour voir le taux augmenter. C'est-à-dire que normalement, on te dit d'attendre 48 heures. Moi, c'était pas possible. J'attendais 24 heures. Je retournais au labo. Je voulais juste voir que ça monte. Quoi.
Donc, tu faisais tous les jours une prise de sang?
Tous les jours.
Ah, mais d'accord.
C'était impossible autrement. Je pouvais pas tenir 48 heures.
Mm.
Donc mon taux augmentait bien et dès que donc du coup après je crois que je suis arrivée à un taux à 2500 où je me suis dit bon c'est bon, j'ai appelé mon gynécologue qui m'avait organisé une écho pour voir si l'embryon était bien placé.
Mmh.
Et du coup la veille de cette écho je saigne, genre j'ai eu une douleur et j'ai vu que je saignais beaucoup et je me suis dit merde.
Ouais.
Ça y est, c'est foutu. Donc je suis partie direct aux urgences avec mon mari. Aux urgences, il l'a regardé, il a dit « Oh, le sac est écrasé, c'est une fausse couche. » Parce que vous voyez sur l'écho que mon sac était aplati, sac gestationnel en fait.
Mmh.
Et là, du coup, j'étais un peu choquée et il m'a dit Elle m'a dit, attendez-vous à ce que ça saigne beaucoup cette nuit. Et vous allez faire la fausse couche là. Ok, donc là, je me rappelle, je descends, je repars de l'hôpital. Franchement, j'avais envie de mourir à ce moment-là. Mmh. C'était vraiment horrible comme sensation. Et je sais pas, j'ai dit à mon mari... le soir, je suis rentrée chez moi, en fait, et je saignais pas. Donc j'ai dit, peut-être qu'il s'est trompé. Enfin, tu vois, j'avais envie de me raccrocher quand même à l'espoir qu'il y avait un truc, finalement, ça allait peut-être fonctionner. Puis tu sais, quand t'es dans ces cas-là, tu vas tout de suite sur Internet, tu regardes un peu tous les trucs d'Optissimo, machin. Donc je regardais des gens à qui on avait dit qu'il y avait une fausse couche, et finalement non, et tout. Donc, allez, j'ai dit, regarde, je saigne pas, peut-être que c'est juste... peut-être qu'il s'est trompé, en plus c'est tôt. De toute façon, à ce stade-là, on voit pas l'embryon. Donc, le lendemain, j'avais mon rendez-vous pour l'écho, que j'avais pas annulé, du coup. Et j'y suis retournée. Pareil, il me redit, non, là, c'est fausse couche, c'est sûr. Il y a pas d'embryon, votre sac, il est pas beau. En plus, c'était hyper dur, je voyais que... Le gynécologue n'avait aucune empathie quand j'y suis allée. Enfin, j'étais en train de pleurer en sanglots. Et juste pris la carte vitale, il me l'a rendue, il m'a laissé repartir comme ça. C'était hyper dur. Et donc, du coup, je m'attends à faire cette fausse couche, quoi. Et cette fausse couche, je n'arrive pas, je saigne plus, en fait. Donc, je reste comme ça. Et je dis à mon mari une semaine après, bon, bah, j'ai toujours pas saigné, donc il y a un problème. C'est... Normalement, tu dois évacuer... Le sac, l'embryon, ça se voit quand même. Enfin, tu le ressens, quoi. Tu saignes, une fausse couche, c'est pas juste un peu de sang, quoi. Donc, la semaine suivante, on est retourné à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, oh, on voit un petit embryon, mais il n'y a pas de cœur qui bat. Puis c'est bizarre par rapport à votre stade, il ne ressemble pas à ce qu'il devrait ressembler. Mais bon, comme il y a quand même un embryon, revenez dans une semaine. Donc l'espoir revient, je saigne toujours pas, je me dis peut-être que ça va le faire, je retourne une semaine après, il y a toujours un embryon, mais il n'y a toujours pas de cœur, il est un tout petit peu plus gros, revenez dans une semaine. Avec du recul, il n'aurait jamais dû se passer comme ça, parce que un embryon, bon là je raconte un peu la suite, mais un embryon, normalement il évolue beaucoup d'une semaine à l'autre. Ça prend pas juste quelques millimètres. En une semaine, il peut avoir le cœur qui se développe. Ensuite, tu commences à avoir des petits bras. Enfin, bref, ça aurait jamais dû se passer comme ça. Mais moi, comme j'étais pas gynécologue, si tu veux, je le savais. Enfin,
ouais, bien sûr.
Je savais pas tous ces, je savais pas tous ces détails-là. Et j'avais juste envie d'y croire aussi. Donc voilà, ça a traîné comme ça jusqu'à 9 et ça. Donc c'est-à-dire que j'ai saigné vers 5 et ça. Et à 9 et ça, j'avais toujours cet embryon dans le ventre. Donc, à un moment, je tenais plus. Je disais à mon mari, il faut qu'on prenne un rendez-vous avec une gynécologue. Je veux pas aller à l'hôpital parce que chaque fois, ils se renvoient la balle. Ils me disent de revenir la semaine d'après. Il se passe rien.
Et comment tu vis, toi, ces semaines
Horrible. Oui. Horrible. Je passe ma vie sur Internet à regarder toutes les histoires qui existent. Autant les mauvaises que les bonnes, à me dire est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait pas, j'arrive pas à dormir la nuit, je suis angoissée, quoi. Donc j'ai envie que ça le fasse, et de l'autre côté je me dis je vais tomber de haut, je vais pas le supporter, donc hyper dur. Enfin, je pense que ça aurait été mieux que ça s'arrête vite, quoi. Enfin bref, du coup je prends rendez-vous avec une autre gynécologue. Et que je connaissais bien, et du coup je savais qu'elle avait le matériel pour faire les échos. Voilà. Donc je suis arrivée dans son cabinet en pleurant, je lui ai dit comme ça. Enfin, déjà je me suis pas retenue, j'ai pas fait exprès, mais je suis arrivée en pleurant, et elle a vu qu'il fallait
prendre une décision.
Quoi. Donc du coup elle a regardé, elle m'a dit d'accord, donc du coup vous avez eu vos règles à telle date, donc vous êtes à 9 et ça, on va regarder si votre embryon correspond à un embryon de 9 et ça, et voilà. Mon embryon, en plus, avait rapetissé. Donc là, c'était vraiment pas bon. Elle m'a dit, non, là, c'est pas... on n'aurait pas dû vous laisser comme ça. C'est un embryon qui n'est pas viable. Il n'y a pas de cœur. Il ne ressemble pas du tout à ce qu'il doit ressembler pour votre stade. Donc là, maintenant, il faut... Comme ça ne part pas tout seul, il faut l'évacuer. Donc... ça a été dur, mais je pense que j'avais... c'est ce qu'il fallait... enfin, c'était les mots qu'il fallait que j'entende, parce que moi, j'étais entre deux pendant plusieurs semaines, et j'avais juste besoin qu'en fait qu'il se passe quelque chose dans un sens ou dans l'autre, même si j'aurais tellement préféré que, ça soit une belle grossesse et que tout se passe bien et que ça soit qu'il y ait un happy end. C'était malgré tout, j'avais besoin que ça s'arrête, quoi, ce truc d'être entre deux. Du coup, elle m'a donné deux comprimés de Jimizo. C'est le cachet pour faire évacuer l'embryon. Comme il était tout petit, j'avais pas besoin de passer par une intervention. Et elle m'a donné une ordonnance longue comme le bras d'antidouleur en tout genre pour pouvoir faire, pour me sentir bien si ça n'allait pas. Donc je crois qu'on a attendu que ça soit le week-end pour que mon mari soit là. Ensuite, du coup, on a prévu cette fausse couche à la maison. Donc j'ai pris les deux cachets à 6h du matin en me réveillant. Et on a attendu après que ça se passe. Alors moi, j'avais commencé évidemment encore à regarder sur internet comment se passait une fausse couche quand tu prenais les médicaments. Donc tu lis un peu de tout. Et dont beaucoup d'histoires très, très dures, comme quoi ça fait une douleur horrible. Et finalement, j'ai quand même... le bon côté des choses, c'est qu'honnêtement, j'ai pas trop souffert, quoi.
D'accord.
On va dire que j'ai eu mal juste au moment où t'expulses, en fait, l'embryon, parce que c'est quand même assez gros. Donc, je pense que c'est comme un accouchement, t'as le col qui se dilate. Et donc, t'as un peu les mêmes sensations de contraction. Et déjà, c'est sur un moment beaucoup plus court. Mmh. Et donc, du coup, ça a été...
Et t'as attendu combien de temps, de 6h du matin jusqu'à...
Moi, j'ai expulsé l'embryon à 14h.
D'accord, ok. Et pendant ces 8h, t'avais pas de douleur
particulière ? Non, j'ai eu des douleurs de règles, je saignais.
Okay.
Mais j'ai eu mal qu'au moment où c'est sorti, quoi. Mmh. Donc, non, ça a été. Ça a été, j'ai même pas pris les antidouleurs. Ils sont toujours chez moi. Je les ai encore. Franchement, ça a été... On va dire que le plus dur, de toute façon, c'est psychologique. Mmh. Hein. La douleur, c'est rien. La douleur physique, c'est rien à côté de la douleur psychologique. Quoi. Mmh. Donc, ouais, cette fausse couche, elle a été très, très difficile à vivre, même dans les... Surtout dans les jours à venir, en fait. Les jours suivants, pardon, ont été très difficiles. Parce que j'avais... J'avais des amis proches qui ont eu un enfant. Et je crois que 15 jours après, comme leur maternité était juste à côté de chez nous, on était invités à aller voir le bébé. Donc c'est pas que j'avais pas envie, mais c'était pas le moment, quoi.
T'en avais parlé à ce moment-là, à ton entourage, ou toujours?
Non,
pas?
Non, toujours pas.
D'accord, ok.
Si, je sais pas si c'est à ce moment-là que j'en ai parlé ou si c'était après. Là, j'essaie de me remettre.
T'avais dit que t'étais enceinte à tes copines
J'avais dit à mes copines proches, franchement, pas grand monde, quoi. Mm. J'avais dit juste à ma meilleure amie, plus mes copines sur les réseaux, que j'étais enceinte. Donc j'avais quand même du monde qui le savait, mais j'avais pas dit aux autres personnes. J'avais tellement peur de faire une fausse couche, si tu veux, que. J'avais pas envie d'en parler, quoi. J'ai dit après aux gens que j'avais fait une fausse couche, mais à ce moment-là, j'en avais peut-être pas encore parlé quand je suis allée voir mes amis à la maternité. Donc du coup, là, je crois que ça a été un des moments les plus durs de ma vie.
Ouais.
Enfin, en fait, je me suis retrouvée dans une maternité à entendre plein de bébés. Alors que je venais de vivre ça a été super dur. Je me rappelle, j'étais dans l'ascenseur, tu sais, des sanglots, de me dire, mais comment je vais arrêter de pleurer? Je fais ce qu'il faut pas que ça se voit, tu veux pas arriver à la maternité en pleurant. Mon mari qui essayait de me dire, mais reprends-toi et tout, tu peux pas arriver comme ça, en fait, t'as pas le droit, quoi. Et je lui disais, mais j'y arrive pas. Et en fait, juste avant de rentrer dans la chambre, j'ai réussi à respirer un bon coup et me dire, bon, de toute façon, quand tu seras là-bas, tu pleureras pas, parce que tu vas réussir à faire le job, entre guillemets. C'est moche, quoi, de dire ça, mais c'était un peu ça, quoi, parce que même si t'es contente de le voir, ce bébé, c'était pas le moment, quoi, pour moi.
C'est sûr.
Donc très difficile, et du coup, après, on en a discuté avec mon mari et on a décidé de dire aux gens que j'avais eu une fausse couche. Après, je pense que de le dire et de comprendre que derrière, psychologiquement, t'es super impactée, c'est pas pareil, quoi. Je pense que je pense que les gens comprennent. Si tu l'as pas vécu, je pense que c'est difficile de comprendre l'état de détresse, entre guillemets. Et encore, je dis ça, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui ne le vivent pas comme ça, mais moi, j'étais vraiment au bout du rouleau, quoi. Ouais. Donc voilà, en plus, on avait voulu le dire aussi parce que on avait quand même pas mal de questions aussi suite à notre mariage, de quand est-ce qu'on voulait avoir un enfant.
Ah, la fameuse...
Ouais, voilà.
C'est pour quand,
voilà.
Après la suite.
On s'était dit, voilà, si on le dit, les gens vont nous lâcher la grappe et on avait besoin qu'on nous lâche la grappe là-dessus.
Ouais.
Donc voilà, juste après cette fausse couche en plus, on est partis en vacances avec d'autres amis. Et moi, je m'étais... on avait programmé ces vacances-là quand j'étais enceinte au tout début. Alors, je m'étais déjà imaginé ces vacances-là enceinte.
Mmh.
J'arrive pendant les vacances, donc pas enceinte, avec une copine enceinte, des enfants. On était le seul couple sans enfants.
Aïe.
Hyper dur à vivre aussi. Et ça s'est bien passé. Enfin, c'est des amis qui sont proches et que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'était pas le moment de faire des vacances comme ça, en fait. C'était une connerie.
Ouais.
C'était une connerie. Toute la journée, j'étais avec ma copine qui était enceinte, ils avaient tous des enfants, enfin, moi, j'étais pas bien du tout. Je venais de vivre... Enfin, on est partis en vacances en août, et moi, ma fausse couche, je l'ai faite fin juin, donc...
Ah oui, c'était très récent.
C'était très récent. Mmh. Donc ça a été dur et je pense que vraiment honnêtement cet été-là j'ai commencé à faire une petite dépression quoi.
T'as été voir une psy
Pas juste après ma fausse couche, mais non, là j'ai commencé à faire une petite dépression, ouais, parce que après ces vacances-là, moi je travaille avec mon mari et dans l'immobilier et j'arrive plus à aller au travail, j'arrive plus à faire semblant, j'arrive plus à rien, donc honnêtement j'ai eu je pense une période peut-être de 6 mois.
Ah oui, oui.
De forte dépression où je m'habillais plus. Je m'étais commandé des pyjamas sur internet. Je pense que j'ai vécu 6 mois en pyjama.
Ah, d'accord.
Je sortais juste pour sortir mon chien. Je mettais des grosses bottes de pluie, pas compliquées à enfiler parce que je crois que j'avais même pas la force de faire des lacets. Je sortais mon chien, je remontais chez moi, je restais en pyjama, je faisais rien. Je faisais rien, j'arrivais à voir personne. J'avais ma copine, tu sais, je t'avais parlé de... Ça, tu vois, j'ai envie de pleurer.
Ah bah attends, je t'en prie.
J'avais ma copine avec qui je suis toujours très proche sur les réseaux sociaux, qui est tombée enceinte à ce moment-là. Et en fait, aussi, on a coupé les ponts parce qu'en fait, je lui avais dit que j'avais du mal à gérer sa grossesse et à ce moment-là. Et en fait, on s'est pas bien comprise parce qu'elle aussi, elle a eu du mal à avoir son fils. Et elle n'a pas compris que je ne lui souhaitais pas du bonheur, en fait, à ce moment-là. Mais c'est juste que moi, comme je venais de vivre ma fausse couche, et qu'en plus, on avait été enceinte quasiment en même temps, de voir qu'elle continuait sa grossesse, que moi, ça s'était arrêté, de l'avoir enceinte, je lui avais dit, en fait, là, pour l'instant, je n'y arrive pas. Je veux qu'on garde contact, mais je n'arrive pas à parler de ta grossesse. Et elle ne l'a pas compris. Sur le moment, je pense que, en fait, je ne me suis pas bien exprimée ou... Ça a été mal interprété, tu vois, elle l'a pris comme si je ne voulais plus lui parler, et voilà. Bon, bref, donc c'est vrai que j'ai perdu encore plus d'amis au passage, donc vraiment, j'étais super seule. Et mon mari qui comprenait toujours pas trop ce que je vivais.
Ouais.
Donc ça a été difficile et je m'éloignais encore plus de mes anciens amis. Donc là, vraiment, j'avais plus trop personne, je parlais pas avec ma famille, voilà.
T'avais toujours ces personnes sur les réseaux sociaux.
Ouais, toujours ces personnes sur les réseaux sociaux. Et ma meilleure amie Claudia qui était là et qui était super compréhensive parce qu'elle, comme elle était atteinte d'endométriose, elle avait un peu ces mêmes angoisses-là par rapport à la maternité. Donc on était super proches et elle m'a beaucoup soutenue à ce moment-là. Et c'est peut-être la seule... plus les personnes avec qui je parlais sur les réseaux sociaux, mais la seule avec qui j'étais très proche et que j'avais envie de voir et avec qui j'avais envie de discuter.
Ouais. Donc pendant ces 6 mois où tu fais pas grand-chose, tu passes tes journées à broyer du noir,
ouais,
en fait, à te rappeler...
Ouais. À broyer du noir, à regarder des séries, ouais, à discuter avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. je faisais quasiment que ça. Et enfin, j'ai du mal maintenant que je vais bien à repenser à ça en me disant mais comment c'est possible de pas avoir envie de sortir de chez toi, de faire des trucs. Surtout que maintenant je fais tout le temps plein de choses et je me dis c'est bizarre quand même d'avoir passé cette période-là. Mais j'étais incapable. Enfin, j'étais incapable. Même parfois je t'en parle et je me dis c'est bizarre d'avoir vécu les choses aussi fortement, mais c'est vrai que moi je l'ai vécu comme ça et ça a été super dur pour moi. Et donc j'ai passé peut-être 6 mois comme ça à broyer du noir. Et après avec mon mari je suis allée voir un médecin, on a voulu faire des examens parce qu'il a dit si tu retombes enceinte que tu refais une fausse couche là, ouais. Enfin tu vas... ça va pas bien se passer quoi. Donc, donc on a fait des examens visés là-dessus. Après ils ont quand même fait un peu tout le check-up que tu fais quand tu vas voir un médecin gynécologue spécialisé on va dire dans l'infertilité entre guillemets. Donc on a tout qui est à peu près revenu normal, sauf moi j'avais un examen des anticorps. Ça s'appelle des anticorps anti-phospholipides qui n'étaient pas normal. Donc cet examen, ça montrait qu'en gros, si j'avais une grossesse, je pouvais avoir des... c'est technique, mais bon, ça pouvait créer des fausses couches, quoi.
D'accord, ok.
Et après, tu vois, cet examen, il est revenu pile au seuil normal, enfin, au-dessus. Donc je crois que la norme, c'était 50 anticorps et j'ai eu 51. Donc c'était un peu bizarre, donc c'est encore un truc où tu sais pas trop, même mon médecin m'a dit je sais pas trop, ça peut très bien être le stress, vous avez fait 51 et en fait ça va, donc il m'a refait faire les examens, qui sont revenus normaux, il me les a refait faire, qui sont revenus pas normaux. Donc ouais. Il a dit écoutez, de toute façon s'il y a une grossesse, ce qu'on fera c'est qu'on traitera comme si vous avez ce problème d'anticorps, et puis on verra. Il m'a dit par contre... il faudra peut-être un traitement si vous êtes enceinte. Donc pareil, je retourne après tous ces examens-là, je regarde ce truc d'anticorps sur internet, je vois vraiment des trucs horribles, que beaucoup de femmes qui ont ça n'arrivent pas du tout à avoir d'enfants, qu'elles enchaînent les fausses couches à répétition, qu'il y a eu des soucis à plus de 38 et ça à cause de ce problème d'anticorps. Donc je me suis dit, c'est-à-dire que même si je suis enceinte,
tu seras jamais sereine.
Je vais angoisser jusqu'à quand, jusqu'à, enfin, donc là je crois que j'avais touché le fond. Et juste après, donc en même temps, il y a ma meilleure amie Claudia qui m'envoie un texto pour me dire qu'elle est enceinte. Donc la seule personne, si tu veux,
avec qui t'étais restée très proche.
Avec qui j'étais restée très proche, ouais. J'avais une autre copine avec qui j'étais proche aussi, qui avait vécu un deuil périnatal, avec qui j'étais proche. Et pareil, cette autre copine m'annonce en même temps enceinte. Donc c'est-à-dire que deux copines avec qui je me sens proche parce qu'on se comprend enceinte, moi j'ai ce truc qui tombe là de... Même quand je vais être enceinte, ça va être difficile. Déjà, c'est difficile d'être enceinte. Quand je vais être enceinte, ça va être difficile. Donc là, si tu veux, je me suis dit, en fait, tu vas... Déjà que t'as du mal à t'en sortir après ta fausse couche, là, tu vas... T'es au bout, quoi. Mmh. Je me suis dit, en plus, ma copine Claudia, si tu veux, elle était séparée de son copain quand elle est tombée enceinte. Donc je me suis dit, elle a tellement été là pour toi, en plus, tu peux pas la laisser tomber maintenant. Donc je me suis dit, tu vas être obligée, même si t'as pas la force d'être là pour elle, alors que toi t'es au fond du trou et que tu rêves de vivre cette grossesse, qu'elle, elle l'a pas demandé cette grossesse parce qu'elle est pas avec le papa. Donc hyper difficile à... C'est difficile que ça matche, mais je me suis dit, va falloir, y a pas le choix, quoi, parce que sinon tu vas perdre ta meilleure amie, quoi. Mmh. Et on se connaît depuis 20 ans avec Claudia, donc j'avais pas envie que ça entache notre amitié, parce que c'est un truc, si ta meilleure amie elle est pas là quand t'es enceinte, que tu vis, tu t'as grossesse seule, je me dis notre amitié elle va pas me pardonner. Donc j'ai pris sur moi, j'ai réussi quelques semaines à passer outre ma peine, même si vraiment j'ai beaucoup souffert à ce moment là
T'allais toujours pas avoir de psy à ce moment-là ?
Si, à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir un psy. Parce que je me suis dit, sinon tu vas péter un boulon. Donc je me suis dit, si, on va aller voir un psy là. Donc je suis allée voir ma psy. J'ai décidé de couper mes réseaux sociaux, tout. Parce que, en fait, tout ce qui me montrait des femmes enceintes me faisait du mal. Donc je me suis dit, tu coupes tout. J'ai enlevé Instagram, j'ai tout enlevé. Je me suis dit, il faut que tu te bouges. Donc j'avais commencé à parler avec mon mari du fait de reprendre des études. Parce que moi, l'immobilier, ça ne m'intéressait pas plus que ça.
D'accord.
Donc je lui ai dit, de toute façon, je n'arriverai pas à refaire l'immobilier avec toi parce que c'est pas un métier qui est fait pour moi. Donc je lui ai dit, je vais reprendre des études pour faire autre chose. Donc je me suis un petit peu dit, de toute façon, maintenant, là, c'est soit tu coules encore plus bas que tu es, soit tu remontes.
Ouais.
Donc j'ai essayé de me remettre un petit peu, on va dire, sur les rails.
Ouais.
J'ai pris rendez-vous avec la psy, etc. Et en fait, quelques semaines après, mon mari m'a dit, allez, viens, on essayait toujours, hein, mais là, on s'était dit, on donne tout, il faut que tu tombes enceinte, ça suffit. Donc, on a tout donné pour que je tombe enceinte. Et il m'a dit, tu vas voir, je suis sûre que cette fois, ça a marché, je le sens bien et tout. Mm. Et je sais pas, moi aussi, j'y croyais son truc. Je me suis dit, ouais, allez, c'est le moment, quoi, enfin... Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous sourit, quoi. Ça peut pas durer comme ça. Donc...
Parce que là, ça faisait combien de temps, d'ailleurs, en tout ?
En tout, ça allait faire 2 ans.
2 ans, oui.
Donc, long, assez long, quand même.
Mm-hmm.
Donc, ça allait faire 2 ans, parce qu'on était en mars, et on a commencé à essayer l'été, 2 ans, début de l'été, 2 ans avant. Donc voilà, je fais mon test hyper à l'avance comme d'habitude, et là une belle barre bleue enceinte. Et c'est bizarre, ça m'a pas fait du tout la même chose que la grossesse d'avant. C'est-à-dire que là j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de joie. Enfin c'était ah, je vais pleurer. Je crois que c'était vraiment le plus beau moment de ma vie.
Mm. T'avais plus d'angoisse à ce moment-là, ça s'est envolé.
Non, à ce moment-là, j'ai pas eu d'angoisse, ouais. Ça s'est envolé. Je me suis dit, de toute façon, là, il n'y a pas le choix. Enfin, il faut que ça le fasse parce que ça a été trop dur. Ça a été trop dur ces derniers mois. Là, il faut qu'il y ait quelque chose de bien qui se passe. Donc, ouais, j'y ai cru tout de suite. Et j'ai eu mon fils, donc j'avais raison d'y croire. Honnêtement, pour toutes les mauvaises choses qui s'étaient passées avant, j'ai quand même une belle grossesse où j'ai eu des angoisses, j'ai fait beaucoup de cauchemars, j'ai eu peur, mais j'ai pas trop voulu non plus
leur laisser de la place.
Ouais, j'ai pas voulu leur laisser de la place. D'ailleurs, bon, j'ai fait, tu sais, j'avais ce compte Instagram, j'ai pas voulu y retourner. Je me suis dit, si je retourne, c'est peut-être égoïste parce que j'étais beaucoup de copines avec qui j'avais créé des liens, mais je me suis dit, je peux pas, en fait, je vais me gâcher ma grossesse si je retourne dans des histoires tristes, alors que moi je suis en train enfin de me sentir bien et de vivre un truc chouette. J'ai pas envie de me créer des angoisses. C'est pas que j'avais pas envie de parler à des gens qui avaient des soucis, c'est que j'avais pas envie de me créer des angoisses. Je faisais déjà des petits cauchemars et tout, où j'avais peur qu'il y ait des choses, enfin j'avais peur que cette grossesse s'arrête, mais donc du coup je voulais pas en rajouter, être dans un truc. 9 mois c'est long, si t'as peur pendant 9 mois et que t'angoisses pendant 9 mois, c'est pas viable. Donc je me suis dit, je veux pas voir, en fait, je veux pas voir toutes les mauvaises histoires qui se passent et qui existent, je veux juste couper, c'est pas possible. Donc d'ailleurs j'avais repris contact avec ma copine, où je t'avais dit, on avait arrêté de se parler parce que j'avais eu du mal à supporter sa grossesse. Donc on a repris contact, elle avait accouché de son petit garçon, donc ça y est, commençait à se passer des trucs chouettes. Et donc mon fils est arrivé le 14 décembre 2019.
Alors est-ce que tu avais prévu des choses particulières pour ton accouchement, ou tu t'es laissé porter
Ah non, moi je suis arrivée en touriste.
Ouais.
non je suis arrivée en touriste. Comme je suis venue ici d'ailleurs en touriste aussi, moi je ne préfère pas préparer les choses parce que sinon ça me stresse. Je me dis, je veux pas, même ne pas y penser avant, en fait. Je fais l'autruche, et une fois que j'arrive devant le fait accompli, de toute façon il faut faire les choses. Donc non, j'ai fait l'autruche jusqu'au bout.
T'avais pris péridurale et...
Ouais, d'ailleurs, bon, ça, tu vois, tellement C'est un petit détail, je t'avais dit que je devais avoir un traitement pendant ma grossesse, pour te dire que ça n'a pas pris de place dans ma grossesse, parce que j'avais tellement eu de douleurs psychologiques que c'est pas ça qui allait m'atteindre. J'ai quand même eu un traitement du coup toute la grossesse où je faisais une piqûre par jour.
Ah oui, d'accord, quand même.
Mais c'est ce que tout le monde me dit quand même, mais en fait, moi, je m'en rappelle même pas, en fait. Tellement c'était rien à côté du fait d'avoir envie d'avoir un enfant. Faire une piqûre alors qu'il est là, enfin qu'il est là et que ça se passe bien, c'est rien du tout. Mais du coup, par contre, avec ce traitement-là, j'ai quand même dû être déclenchée.
Ah oui, d'accord.
Ouais, donc en fait, quand tu fais ce traitement-là, en fait, t'es pas obligée d'être déclenchée, mais tu veux pas avoir de péridurale si tu as pris, est-ce que c'est du Lovenox, comment ça s'appelle, pour fluidifier le sang. Donc tu peux pas avoir de péridurale si tu as ce traitement. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font une fenêtre thérapeutique où pendant 24 heures, tu arrêtes ton traitement et ils te déclenchent pour pas que tu restes quand même trop longtemps sans le traitement.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est ce qu'ils m'ont fait à 39 et ça. Un peu plus, 39 plus 5, ils m'ont déclenché. Donc j'ai eu le Propès. Et voilà. Mais moi, mon accouchement, pareil, je l'ai super bien vécu.
Ça fait mal, je vais pas dire le contraire, mais...
Mais honnêtement, j'ai trop envie de revivre un accouchement. C'était vraiment... C'était magique, quoi, comme moment. Et donc, du coup, pareil, j'ai pas été triste du fait que ça a été déclenché. Je pense que j'avais pas peur non plus d'avoir une césarienne. Par contre, ça sera refaire. Maintenant, j'aurais peur d'avoir une césarienne parce que j'ai tellement aimé mon accouchement et ça s'est tellement bien passé. Mais bon, juste pour dire que j'avais pas... Je voulais juste qu'il soit là, en fait, mon fils. Je voulais juste qu'il soit là, peu importe comment ça se passe. Donc, j'avais pas de demande particulière, rien du tout.
Et alors, la rencontre ?
Magique.
Ouais.
Ouais, c'était magique. Juste merveilleux. Rien d'autre à dire. je me rappelle, mon mari m'en reparle. Il m'a dit, t'étais tellement pressée que tu sais, quand ils sortent le bébé, ils le mettent au-dessus du drap. Pour te le poser sur toi. Moi, j'ai levé le drap pour passer ma tête en dessous pour le voir. donc voilà, c'était génial. C'était génial. Et puis même tout, tu vois, j'ai pas du tout eu de baby blues. J'ai pas eu un postpartum difficile. J'ai eu des douleurs comme toutes les femmes. Mon corps...
Oui, le temps que ça se remet.
Voilà, même mon corps, je me sentais pas hyper bien dans mon corps parce que j'avais pris un peu de poids et tout, mais franchement c'était quand même hyper secondaire à côté du bonheur que je vivais, et même si ça a été difficile parce qu'on dormait pas beaucoup, etc., vraiment je nageais dans le bonheur, quoi. Enfin, j'étais vraiment super heureuse et j'ai pas du tout eu de baby blues, de période où je savais pas, où je savais, tu sais, parfois ton rôle de mère, tu as du mal à l'appréhender. Moi vraiment non, c'était tout de suite tout de suite coup de foudre, tout de suite facile, tout de suite bien passé. Mère poule. Grosse mère poule. Et voilà, sinon pour reprendre l'histoire, après ça, on s'était dit que si on voulait un deuxième enfant, comme ça avait été difficile pour Elliot, il fallait pas que je reprenne de contraceptif trop longtemps, quoi. Donc du coup, quand Elliot a eu 10 mois, on s'est dit, j'arrêtais de prendre la pilule et qu'on verrait quand est-ce que ça viendrait, quoi. Donc on s'était dit, on verra dans 2 ans. Voilà. Et en fait, bizarrement, je suis tombée enceinte très vite.
D'accord.
Après. Donc Elliot, il avait 11 mois. Donc quasiment un mois après avoir arrêté la pilule.
Ouais.
Donc choquée. Hyper choquée. On s'y attendait pas du tout. Et on s'est dit, bon, bah, go. Tu vois, au fond de moi, si je dis pas que j'étais pas complètement prête, je me suis dit, waouh, j'avais pas prévu non plus d'avoir des enfants avec 18 mois d'écart, quoi. Mais bon, on s'est dit, c'est une chance, quoi, trop chouette. Et bizarrement, pareil, comme ça s'était tellement bien passé la grossesse d'Eliott, j'ai pas trop pensé fausse couche tout de suite, tu vois. J'ai eu la même réaction que pour Eliott, quand j'étais dans les toilettes, que j'ai vu le test positif, j'ai repleuré, je me suis dit, waouh, un deuxième enfant et tout. Donc j'ai pas eu d'angoisse.
Ouais. J'ai dit, c'est bon, la machine est lancée.
Ça y est, je me suis dit, la machine est lancée, ouais. J'appelle mon médecin, on reprend le traitement, tout va bien se passer. Donc, je vais quand même faire ma petite prise de sang parce qu'il fallait quand même vérifier. Je fais ma prise de sang, ça me semble, voilà, j'ai un taux normal par rapport à mon retard de règles. Je la refais quand même 48 heures après pour voir si ça a bien doublé. Et là, ça coince, ça n'a pas doublé. Donc, je me dis, mince, est-ce que ça recommence, quoi ? Est-ce qu'il y a un souci ? Je me rappelle quand j'ai eu le résultat, ouais, je me suis pétrifiée, je me suis dit, waouh, généralement, les trucs comme ça avec moi, ça finit pas bien, quoi. Donc, je recommence mes trucs d'aller sur Internet pour vérifier s'il y a des histoires où le tout ne double pas, mais qu'il y a quand même des happy end. Donc, pareil, je lis un peu de tout et n'importe quoi. Donc, je recommence à refaire des prises de sang régulièrement. Mon taux recommence à redevenir bien. Il en redouble et il a un taux correct. Donc, je me dis, allez, vas-y, détends-toi. C'était peut-être juste un petit couac dans l'histoire, mais ça va le faire. Maintenant, tu patientes jusqu'à l'écho ou l'écho de datation. Donc, je patiente jusqu'à l'écho de datation, que j'avance, que je recule, que j'avance, que je recule sur Doctolib. Parce que je suis partagée entre le fait de vouloir savoir vite et le fait de me dire, vaut mieux attendre un petit peu. Ouais. Comme ça, t'es quand même sûre. Mmh. Parce que tu vois, si tu l'as fait à 6 et ça, on peut te dire, on voit rien, mais au final,
pareil, 2 semaines après.
C'est juste que c'est un peu tôt. Ouais. Donc, allez, je l'ai fait du coup tôt. parce que j'ai pas résisté. Donc, je l'ai fait à 6 et ça plus 2. Et là, classique, il me dit on voit rien. Il me dit on voit rien, fausse couche. Je dis ça, c'est pas possible.
Ça recommence.
Et donc, je rentre, c'était la veille du nouvel an. Donc, c'était. J'ai eu la bonne idée de faire mon écho le 31 décembre. Mmh. Donc, nouvel an.
Ah oui, oula.
Horrible. Mmh. Donc, nouvel an horrible. Je me suis dit bah je bois même si je suis enceinte entre guillemets, on dit je vais faire une fausse couche, j'ai bu du champagne, j'étais pas du tout en forme, un peu bourrée, j'ai vomi, bref, l'horreur, pas bien. Et j'attends ma fausse couche et pas de fausse couche. Donc je dis à Adam, je dis bon ça se trouve il s'est trompé. Ça se trouve, on y allait trop tôt. En fait, on va faire comme si j'étais enceinte. Je bois plus, je refais comme si j'étais enceinte. Je me tiens bien. Et j'attends la semaine prochaine, on refait une écho pour revérifier. Donc j'attends la semaine prochaine, on refait une écho pour vérifier. Et là, je vais chez une autre échographiste et elle me dit, oh, on voit un embryon. Mais il est petit. Et donc, pareil, je sais pas. En fait, ça a beau avoir vécu le truc une fois, quand même, tu te dis peut-être que cette fois ça va pas se repasser pareil, et puis en fait ça se repasse pareil. Donc je retourne là, j'ai quand même traîné jusqu'à 11 et ça, même peut-être 12, parce qu'en fait il y a eu un moment où on a vu le cœur.
Ah oui,
le cœur battre, et donc j'y ai vraiment cru.
Ah bah oui,
et entre le moment où on a vu le cœur battre et mon gynéco m'a dit on attend 2 semaines maintenant, comme ça on est bien sûr dans 2 semaines si ça le fait ou si ça le fait pas. Donc je me suis retrouvée avec 12 et ça, un embryon de 5 mm, alors c'est censé faire 5 cm, pas de cœur qui bat, et donc rebelote, les cachets, etc. Et comme j'ai toujours la chance, moi ça m'arrive toujours quand mes meilleures amies tombent enceintes, donc mes 2 meilleures amies enceintes en même temps. Pas que je leur souhaite pas d'être enceinte, hein, mais c'est vrai que quand tu vis ça et que t'as envie de te confier à tes meilleures potes qui, elles, sont enceintes, c'est plus difficile. Et pour le coup, j'étais même pas sur les réseaux sociaux, j'étais plus sur les réseaux sociaux à parler avec d'autres femmes, etc. Donc là, je l'ai vécu plus seule, même si c'était différent de la première fois, parce que j'étais déjà maman. Donc ça a été moins dur. Je l'ai encore plus caché, mais ça a été un peu moins dur. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire. Mais donc voilà, rebelote, j'ai repris les médicaments, expulsion de l'embryon.
Pas de douleur particulière.
Pareil que l'autre fois en fait. Très douloureux au moment d'évacuer l'embryon, mais sinon, non, ça a été. Ça a été pareil, toujours plus dans la tête. J'ai refait une mini dépression, différente de l'autre fois parce qu'elle a duré moins longtemps, elle était moins forte, mais. Et je me suis un peu plus bougée parce que j'ai quand même mon fils.
Oui.
Donc tu peux pas te permettre, quand t'as un petit garçon qui a de 1 an, d'être au fond du trou, de rien faire, de pas l'emmener jouer, donc moins forte, mais quand même, parce qu'en fait, j'ai le souvenir qu'il y a eu des jours où j'avais goût à rien. Mmh. Où je me disais même d'aller, c'est pas beau là ce que je vais dire, mais même d'aller chercher mon fils dans mon lit et tout, je suis quand même triste, tu vois. J'étais quand même, il y avait quand même un truc qui s'était brisé en fait. Enfin, je m'étais quand même imaginée avec un deuxième enfant, donc il manquait quand même un peu quelqu'un. Mmh. Donc j'étais quand même triste tout au long de la journée, tu vois. Ça a duré peut-être un mois assez fort et trois mois pas bien quand même. Mmh. J'ai été pendant 3 mois pas bien. Après, j'ai réussi à reprendre du poil de la bête et là maintenant ça va bien, tu vois, mais j'ai encore eu une petite phase de down quoi. Après, de toute façon, une fausse couche c'est quand même super, enfin ça dépend des femmes, mais moi c'est quand je les vis c'est intense quoi.
Ouais.
Donc, voilà.
Et t'as continué tes séances avec la psy?
Non, la psy je l'ai vue que jusqu'à ce que je tombe enceinte d'Eliott. Après, en fait, j'allais tellement bien,
oui.
J'avais pas besoin. Parce qu'honnêtement, moi, ce qu'elle me disait, ma psy, c'est qu'il y a des gens qui sont dépressifs chroniques de manière générale. Moi, j'étais dépressive suite à un choc. Donc, c'était différent une fois que ce choc-là, il a été résolu. Quand je suis tombée enceinte, je suis redevenue celle que j'étais, quoi.
Mmh.
Donc, non, j'allais pas voir la psy. Et à ce moment-là, je m'étais dit peut-être qu'il fallait que j'y retourne, mais en fait, c'est vrai que ça s'est résolu plus facilement quand même. Même si ça a été quand même difficile, parce que pareil, ma meilleure amie enceinte, qu'il fallait quand même. Voilà, c'était quand même. Il y avait quand même des instants un peu douloureux. C'était moins dur parce que j'avais mon fils, que j'avais moins cette angoisse aussi de me dire que je serais peut-être jamais maman. Je l'étais déjà. Et aussi de me dire, je sais pas si je pourrais avoir une grossesse qui va aller à terme. Là, je sais que j'ai fait des fausses couches, mais que je peux aussi avoir une grossesse qui se passe bien. Donc, un petit peu moins d'angoisse quand même. C'est différent parce que la première fois, tu te dis en fait, est-ce que je vais. Toutes mes grossesses, ça va être ça. Mmh. Tu sais pas si tu peux avoir une grossesse qui va être menée à terme, si tu vas avoir un enfant vivant à la fin. Maintenant, je sais que même s'il peut y avoir des couacs, je sais aussi que je peux avoir un enfant à terme qui arrive en bonne santé. Donc, c'était différent.
Et donc là, le plan, c'est de continuer
Le plan... Ouais, j'aimerais un deuxième enfant. Donc là, moi, ma dernière fausse couche, elle était il y a un an. Mmh. J'ai pas repris la pilule depuis, j'ai pas eu de grossesse depuis. Après, contrairement à mes essais du tout début, là je suis pas trop à fond non plus, tu vois. Je laisse les choses faire, je ne regarde pas quel jour on est, je sais pas je sais pas où j'en suis dans mon cycle, donc si tu veux, c'est plus détente. Et puis aussi, comme j'ai une relation très fusionnelle avec mon fils, qui s'accroît de jour en jour, tant qu'il n'est pas à l'école, je me dis aussi que c'est peut-être une bonne chose pour moi de ne pas avoir un autre enfant, parce que je lui accorde beaucoup de temps à mon fils et je n'ai pas forcément envie d'avoir 2 tout petits à la maison, parce que je vais avoir du mal à me partager, tu vois. Enfin, je suis une maman qui donne énormément, donc je pense que si j'ai 2 tout petits, ça va être difficile de devoir me couper en deux, parce que les besoins de mon fils sont encore forts et les besoins d'un nourrisson encore plus, tu vois. Donc je me dis que c'est peut-être une bonne chose, même si je pense que ça va me faire moins rire dans un an ou deux si ça continue comme ça, mais bon, pour l'instant ça va. Enfin, je suis pas dans une attente d'avoir un deuxième qui est viscéral comme ça pouvait l'être pour mon premier. Même si je veux un deuxième enfant et j'aurai un deuxième enfant, c'est plus détente. Et tant mieux pour moi.
Ouais.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Ça a donné un sens à ma vie. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais moi, depuis que mon fils est là, la vie est tellement plus belle, quoi. Enfin, je vis tout pour lui, quoi. Je me construis aussi en tant que femme, si tu veux, mais c'est vrai que de l'avoir au quotidien... Enfin, c'est un bonheur énorme, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Pour moi, Paris-Clamart, c'est pas tout à fait pareil, parce que moi, j'ai beaucoup plus d'espace vert là où je suis, donc j'ai beaucoup plus de structure pour les enfants. Donc je me sens pas dans le speed tout le temps avec mon fils comme on peut l'être à Paris. J'ai pas le problème de la poussette qui passe pas. Pour le coup, ouais, j'ai quitté Paris parce qu'on voulait, avoir plus grand avec mon fils. On voulait avoir un espace extérieur. Donc du coup, dans Paris, c'était un peu difficile parce que les prix sont quand même élevés. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de quitter Paris. Ouais.
Quel est ton endroit Kids Friendly préféré ?
Les Lapes. Je sais pas si tu connais, c'est des lieux d'accueil enfants-parents. Donc ça, il y en a dans toutes les villes. Et bon, à Paris, je pense qu'il y en a, mais ça doit être dans différents arrondissements. Mais non, à Clamart, en fait, donc il y a des lieux qui sont ouverts pour les parents avec des accueillantes. Ce sont des crèches ou des relais, des RAM, ça s'appelle relais maternité, où il n'y a pas d'autres enfants, juste tu viens toi avec ton enfant. Il y a ces accueillantes et il y a d'autres parents qui peuvent venir. Et en fait, ça te fait comme une crèche, mais tu restes, tu surveilles ton enfant en fait et il s'amuse avec les autres enfants.
D'accord.
Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais en fait, c'est vraiment des lieux ouverts pour les parents qui gardent leurs enfants. En général, c'est pour les mères au foyer ou même ça peut être le mercredi quand, si t'as pris ta journée pour venir avec ton enfant. Et en fait, c'est vraiment ça fait un énorme espace de jeu et tu viens avec tes enfants et ils jouent entre eux. En plus, moi, comme je vais tout le temps dans les mêmes endroits, il y a d'autres parents aussi, on se retrouve, donc je discute avec les mamans, mon fils connaît les autres enfants, enfin ça crée un peu comme une crèche mais avec les parents qui sont là.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Projet rien que pour moi, j'ai un compte Instagram qui marche bien sur la food. Je fais des recettes healthy, diététiques et gourmandes. Il y en a pour tout le monde. Du coup, je prévois de continuer ce compte-là et de continuer à le faire grossir. Et j'ai aussi une formation dans la nutrition que je fais, que je prévois de continuer. Donc tu vois, quand je t'avais dit je vais reprendre des études, ben je le fais. Et je voudrais en approfondir tout ça pour après faire des coachings sur l'alimentation intuitive et continuer aussi mon compte Instagram. Enfin tout ça, ça se regroupe un petit peu. Toujours sur le même domaine, alimentation, bien-être. Et en famille, je prévois... peut-être voilà un deuxième enfant, j'espère bientôt, et puis continuer. Franchement, là ça se passe tellement bien, juste continuer comme ça, être heureux tous les trois, peut-être tous les quatre après.
Merci beaucoup Anne-Charlotte.
Ben, merci à toi, merci beaucoup.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis et 5 étoiles sur votre application podcast, cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.